Donc on va commencer Bezrat Hashem. On va commencer Bezrat Hashem, notre premier cours sur Shaar Eichud Ve'Emouna. Shaar Eichud Ve'Emouna, ça va être une section très intéressante du Tanya, très profonde, mais très intéressante, dans laquelle on va poser des questions existentielles. Comment Dieu a créé le monde? Et comment on peut comprendre le fait que d'un côté il y a un seul Dieu, mais d'un autre côté on existe? Des questions qui sont pas complexes, mais des questions qui sont importantes. Et alors c'est pareil, comme Igaret Hatshuva, Shaar Eichud Ve'Emouna n'est pas très long, il fait 12 chapitres. 12 chapitres. Donc c'est relativement, mais c'est très profond. Mais avant Shaar Eichud Ve'Emouna, on a une introduction. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Je pense que l'introduction, on va la faire en deux cours, ce cours et le cours suivant. Après, on rentrera dans Shaar Eichud Ve'Emouna. Cette introduction, si vous voulez. D'où le titre dans le cours de l'SMS que j'envoie pour le cours d'aujourd'hui. Éduquer à la Emouna. S'éduquer à la Emouna. Ok. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de développer autour de la notion de Emouna, d'expliquer comment on s'éduque à la Emouna. Donc je ne veux pas rentrer dans les grandes introductions. On va rentrer directement dans le texte de l'introduction. Donc si vous voulez, de la page 9, ici, jusqu'à la page 23, c'est une grande introduction au Shaar Eichud Ve'Emouna. Et c'est important d'étudier cette introduction qui a été écrite par l'Admor HaZaken. Donc on y va. L'écouter à Marim, Chélek Chéni, Anikra Beshem Chinur Katan, page 9. Donc, comme on avait expliqué dans l'introduction à notre premier cours sur le Tanya, ça fait déjà plusieurs années, que l'Admor HaZaken, par humilité, comment il appelle son livre? Recueil, compilation d'enseignements. Un peu pour dire, moi j'ai rien dit, moi je ne fais que compiler des enseignements qui sont déjà écrits. C'est par humilité qu'il écrit ça. La première partie du Tanya, elle s'appelait aussi l'Ikuta Marim. C'était le Tanya avec le Benoni, le Tzadik, le Racha, vous rappelez tout ça? Ça s'appelait aussi l'Ikuta Marim. Et là, on a l'Ikuta Marim, Chélek Chéni. Donc, compilation d'enseignement, seconde partie. C'est ici. Al-Nikra Beshem Chinur Katan, qui est appelé Chinur Katan, l'éducation de l'enfant. Donc, en fait, c'est intéressant. L'angle d'attaque qu'il va prendre pour développer le sujet de la Emouna, on va se mettre à la tête d'un enfant. C'est intéressant parce que moi j'aurais pas pris ça comme ça du tout. C'est pas nous d'emblée dès qu'on veut s'imaginer la Emouna, on veut s'imaginer un adulte qui va percevoir Hachem, etc. Mais l'Admor HaZaken va prendre un angle différent. Un angle, il va dire Chinur Katan. On va analyser la Emouna comme si on devait éduquer un enfant. Donc pareil, Meloukat Mepisfarim ou Pisfarim de Shelion, comme le premier livre, cette deuxième partie du Tanya est compilée à partir de livres et de maîtres saints dont l'âme est au Gan Eden. Donc les livres, il s'est basé en grande partie sur le Shnei Luchot HaBrit, sur les ouvrages du Maharal de Prague, etc. Et les scribes, il s'est basé sur le Baal Shem Tov, sur le Magid Mezirich, sur des différents rabbinim qu'il a côtoyés. Et avec ça, il a écrit son livre. Sur quoi va être basé la nouvelle partie qu'on va étudier? Mais Yusad al Parasha Rishonah shel Kriyat Shema, fondé sur la première section du Kriyat Shema. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif dans ce cours, et dans tous les cours suivants pendant plusieurs mois, ça va être de comprendre c'est quoi le schéma Israël, le schéma Elokeinu, le schéma Israël. Parce que vous allez voir que c'est un verset qui nous a l'air très simple, mais en vérité, il veut rien dire un peu. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue. De quoi?
T'as une heure de retard, c'est tout pour la suite.
T'as l'heure d'hiver?
Ah ouais.
Voilà. Voilà.
Ah oui, c'est
une terre en gare. Tu croyais que
c'était une terre en gare? Non, je croyais que c'était une
terre. C'est pas grave, non, t'as pas d'excuser. On va faire Mintra, il revient. T'as déjà fait Mintra?
Non, je vais
faire Mintra.
D'accord.
Prends ton temps.
Merci. Ça va?
Donc, je disais, le premier verset du schéma a l'air simple. Mais en vérité, a priori, il veut rien dire. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous dites, dis-moi un verset de ton judaïsme. Sur quoi, quel est le verset principal du judaïsme? Qu'est-ce que vous lui répondrez? Pas Israël. Ouais. Écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ce matin, quand vous êtes réveillé, vous vous êtes dit, tu sais quoi, peut-être qu'il y en a deux des dieux?
Non.
Si. Hein? Ouais. Non, mais je comprends. Oui, mais c'est pas des questions qu'on se pose. Non, en général, le monde est séparé en deux catégories. T'as ceux qui croient en Dieu et ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ok? Mais il est clair que quoi qu'il en soit, personne va te dire, ah ben moi tu sais quoi, moi je pense qu'il y en a deux. Bien peut-être qu'ils te diront, mais C'est pas ça, j'ai pas besoin de la Emouna pour ça. Shema Israël, écoute Israël, éternel est notre Dieu, l'éternel est un. Donc on va décortiquer ce verset. Vous allez voir que ce verset est très profond. Mais avant d'arriver à ça, on va d'abord parler, on a dit, de l'éducation d'un enfant. Ok. Donc là, on va ouvrir une grande parenthèse sur l'éducation. Et quand on va étudier ce cours, au début, vous allez avoir l'impression qu'on va quitter complètement le sujet. Parce qu'on est censé parler du schéma, mais on va se mettre à parler de l'éducation. Mais vous allez voir que l'éducation, c'est une entrée en matière pour nous expliquer comment on s'éduque à la Emouna. Parce que finalement, la première personne qu'on devrait éduquer, c'est qui ?
C'est l'enfant.
C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, Razak.
Et avant nous-mêmes.
On est... Donc on te dit, on va analyser maintenant la mitzvah du chinour telle que Dieu nous l'a donnée, comment éduquer son enfant. Et par rapport à ça, on va comprendre comment nous aussi, on va nous éduquer, on va s'éduquer soi-même sur le sujet de la Emouna. On est prêt ? Bon, on va parler d'éducation. L'éducation, c'est un sujet qui est toujours d'actualité pour les jeunes et pour les moins jeunes. Ce que j'appelle les jeunes et les moins jeunes. Il y a des personnes qui sont encore concernées par l'éducation des enfants. Ils éduquent encore leurs enfants, ils ont encore des enfants en bas âge. Et il y a des personnes qui ont plus d'enfants en bas âge. La vérité, moi je pense que l'éducation s'arrête jamais. Un père, il continue à éduquer son fils même à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et après qu'on a éduqué, il y a un guilgoul cette mouche. Et après qu'on a éduqué, bon, tu peux y aller. Et après qu'on a éduqué nos enfants, d'accord, on s'occupe des petits enfants. Elle va rien vous faire, vous inquiétez pas.
Non, mais seulement.
Hein? Bah, vous occupez d'elle.
Ben oui, on est obligé de la pousser.
Bon. Ok, alors on y va.
L'éducation commence par l'enfant qui est en nous.
Alors, l'éducation commence par l'enfant qui est en nous.
C'est ça. C'est l'enfant qui est en nous tout le temps. C'est pour ça que toute ta vie, tu peux. T'es toujours un enfant.
Attendez. Plus rapide, hein?
Vous l'avez eu?
Non, ouais. Bientôt, elle est partie là. C'est bon, on y va? Allez, alors, Hanoch Lanahar Alpi Darko. Pour commencer ce cours, je vais commencer par une histoire. Une fois, il y a un chassid qui est venu voir le rabbi. Qui lui a dit, Rabbi, avec sa femme, il est venu voir le rabbi, il a dit, Rabbi, j'ai un grave problème. Ils avaient un enfant qui est en train de quitter le droit chemin. Bon, dans toutes les familles, c'est dramatique, mais encore plus quand c'est une famille de gens pratiquants, c'est encore plus dramatique. Et donc, il est venu voir le rabbi, il a dit, Rabbi, j'ai un problème. On a un problème, notre enfant est en train de quitter le droit chemin. Alors, le rabbi a commencé à enquêter, etc. Comment vous éduquez votre enfant? Et les parents répondent au rabbi, ils disent, mais on ne comprend pas. On a éduqué notre enfant comme tous les autres enfants. On a éduqué exactement de la même façon. Et on ne comprend pas pourquoi cet enfant il a un problème. D'après vous, qu'est-ce qu'a répondu le rabbi? Vous êtes dérangé par la mouche, bon. On va s'occuper de la mouche.
Hein?
Exactement. Mettez-lui un gâteau là-bas, allez là-bas. C'est le sucre, je crois qu'il y a. Oui,
c'est le sucre.
Ah, ok.
Quoi?
Alors, qu'est-ce qu'a répondu le rabbi? Le rabbi a répondu comme ça. Il a dit, c'est justement votre problème. C'est quoi votre problème? C'est que vous avez éduqué cet enfant comme tous les enfants. Vous avez éduqué tous les enfants de la même façon. Monsieur Benita, c'est une petite mouche.
Pardon?
C'est une petite mouche.
Oui, mais enfin, bon...
Ça vous dérange? Bah, ça vous dérange, on va s'en occuper.
Bon.
David?
Allez, ouvre la bouche.
Allez, ouvre la bouche, hop, allez, vas-y.
Bon, alors...
C'est bon?
On y est.
Donc, je reprends l'histoire. C'est cette personne qui vient voir le rabbi, ses parents qui vont voir le rabbi, et qui disent, Rabbi, on a un problème avec notre enfant qui quitte le droit chemin. Alors, le rabbi enquête, et ils disent, on ne comprend pas, on a éduqué tous nos enfants de la même façon, et pourtant, ça ne marche pas. Qu'est-ce que répond le rabbi? C'est justement votre problème. C'est justement votre problème. Que vous avez éduqué tous vos enfants de la même façon. Pourquoi? Parce que le roi Salomon, il résume ça dans un verset. Il y a un verset qui dit, dans le proverbe, Hanor, je suis à la page 10, Hanor lanahar alpi darko, gam ki yeskin le yasur mimen. Éduque l'enfant selon sa voie, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en écartera pas. Ce verset a l'air très étonnant. Le verset nous dit, éduque l'enfant selon sa voie. C'est la réponse que le rabbi a fait à ses parents. D'accord? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Ça vous dérange, j'arrive pas à faire con, moi ça me dérange pas.
Non, ça me dérange pas
de
m'occuper.
Attendez, attendez. Hein? Mets-lui un gâteau là-bas. C'est vrai qu'elle est, elle est route passée.
De quoi je vais taper?
Hein?
Je vais pas taper avec un livre.
Non. Alors je disais, le rabbi, il dit justement à ce couple, il leur dit, votre problème, c'est que vous avez éduqué tous vos enfants de la même façon. Et on peut pas éduquer tous les enfants de la même façon. Chaque enfant, il a son style. Chaque enfant, il a son caractère. Chaque enfant, il a ce qui le dérange plus, ce qui le dérange moins. Chaque enfant a ses qualités, chaque enfant a ses défauts. Et notre rôle de parent, c'est d'essayer de s'adapter au caractère de chaque enfant. Pas d'adapter l'enfant à notre caractère. Vous me suivez?
Ouais.
C'est pas, mon but, c'est pas que l'enfant devienne comme ce que j'ai envie. Mon but, c'est quoi? C'est que l'enfant, je vais réussir à le guider, à le diriger, selon son chemin. Mais ça, c'est pas simple du tout. Pourquoi c'est pas simple? Parce qu'a priori, normalement, le pasouk aurait dû dire « éduque l'enfant selon le chemin ». D'accord?
Alors on va manger avec.
On met dessus, non, mais on ne mettait pas, ça va retomber dessus.
Le pasouk aurait dû dire « éduque l'enfant selon le chemin ».« Chanoch lana'a alpi hader » selon le chemin. C'est pas ce que dit pasouk. Pasouk qui dit « éduque l'enfant selon son chemin ». Mais si c'est son chemin, c'est-à-dire c'est pas forcément le vrai chemin, parce que normalement la vérité, c'est une valeur absolue. Donc, est-ce que la façon comment je vais éduquer mon enfant selon son chemin, est-ce que le chemin de mon enfant sera forcément le chemin de la Torah?
De préférence.
Non.
Ah, attendez, on va réfléchir ensemble.
Forcément, mais logiquement, oui.
Le roi Salomon n'a pas dit « éduque ton enfant selon le chemin de la Torah ». C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « éduque ton enfant selon son chemin ». Et si mon enfant a un chemin tordu, c'est ça ce que la Torah attend de moi?
Il faut essayer de le redresser.
Il ne peut pas avoir un chemin tordu si tu l'éduques autrement.
Oui, je comprends. Mais attention, non. Alors, ce que tu dis, Marcel, c'est « éduque ton enfant selon ton chemin ».
Ah oui, ça.
C'est pas ce que le texte dit.
Il y a une erreur.
Le texte dit « éduque ton enfant ». Justement, c'est le problème. On se plante tous dedans. Le problème, c'est que le texte dit « éduque ton enfant selon son chemin ». Mais le chemin de l'enfant, il n'est pas bon. Donc le référentiel n'est pas bon.
Mais quand il est enfant, on ne connaît pas son chemin. On ne sait pas c'est quoi son chemin. Il faut mettre des années et des années pour le découvrir, le chemin.
Donc, et en plus, le roi Salomon, il te fait ici un développement. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, si tu éduques ton enfant selon son chemin, même lorsqu'il vieillira, il ne s'écartera pas. Mais évidemment, si tu l'as éduqué selon son chemin, c'est-à-dire selon son chemin tordu, et qu'il reste qu'à la fin de sa vie tordu, il n'y a pas d'exploit. Où est l'exploit? Donc, qu'est-ce que ça veut dire éduquer son enfant selon son chemin? Ça, c'est la question.
Alors, en faisant son chemin, à toi de redresser, en fait, c'est ça que je veux dire,
pardon. Oui, mais c'est pas simple. C'est-à-dire, c'est quoi le chemin d'un enfant? C'est-à-dire quoi le chemin? C'est quoi le chemin? Le derrière.
Sa façon de comprendre les choses.
Ah, donc toi, tu dis le chemin, c'est pas ce qu'il fait, c'est sa façon de percevoir les choses.
Oui. Bah, il y a que cette façon, hein.
On va voir.
Parce que si c'est...
Déjà, il faut détecter, quand on a l'enfant, détecter quelles sont les matières, par exemple, ou les chemins qui attirent, qui lui plaisent, qu'il aime, etc. Voilà, s'il n'aime pas la halakha, on ne va pas s'acharner à lui apprendre la halakha alors qu'il n'aime pas ça. On voit que ça l'a...
Et s'il n'aime pas la religion?
Il n'aime pas la religion, alors on ne va pas l'obliger. On ne va pas le forcer, c'est aller contre nature.
Et si votre enfant, je ne parle pas de vous, si votre enfant, il aime par exemple la drogue, qu'est-ce que vous faites?
J'essaie de le...
Non, attendez. Plus une seconde.
Oui, mais d'abord...
Éduque ton enfant selon son chemin. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, viens mon fils, je t'apprends comment on trouve la drogue, comment on la cultive?
Non, quand même pas.
Pourquoi quand même pas?
Non. Selon son chemin, mais dans le cadre de l'éducation. Mais la drogue, ce n'est pas de l'éducation.
Oui, mais je comprends, mais tu dis éduque ton enfant selon son chemin, ça veut rien dire.
Eh bien, il y a le mot éduque.
Normalement, on aurait dû dire éduque, parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand tu dis éduquer, ça veut dire enseigner quelque chose à quelqu'un. Je ne peux pas t'enseigner ce que tu connais déjà. Je peux pas, c'est comme si je vous disais, monsieur Benita, je vais enseigner à monsieur Benita la Torah de monsieur Benita. Mais si monsieur Benita, je lui enseigne sa Torah, c'est qu'il la connaît déjà. Donc, je lui ai rien appris. Donc, c'est normal qu'il la connaisse. On a l'impression un peu de la même façon. On te dit éduque l'enfant selon son chemin. Mais si c'est son chemin, c'est qu'il est déjà éduqué dedans, qu'il a besoin de l'éduquer. Donc,
ben oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, mais enfin, selon son chemin, ça veut dire que là, le chemin-là, il ne le maîtrise pas encore.
Bon, alors on va expliquer. Non, mais on a dit son chemin. Donc, iné, page 10, iné. Iné, mi dirtiv alpidarko, mash mash, eina, derechaem, et la mito. Puisque tu me dis, éduque l'enfant selon sa voix, ça laisse entendre que cette voix n'est pas la voix de la vérité absolue. Vimken, c'est comme ça, maï, maliut, achegam, kiaskin, la survimena. S'il en est ainsi, quel avantage il y a, que même lorsqu'il vieillira, il s'en écartera pas. C'est pas chouette qu'il s'en écartera pas, le chemin est tordu.
Page 10.
Ah, inemodadzot, seulement, dit l'admorazakan pour répondre à cette question, qui cherche à volat hachamayu selatem, trilu chimu. En vérité, il est bien connu que les racines du service de Dieu et ses fondements sont la crainte et l'amour. Ok, donc là, l'admorazakan va t'expliquer la chose suivante. C'est comme dans les mathématiques. Dans les mathématiques, tu as des éléments de base. Par exemple, on sait que 1 plus 1 est égal à 2. Et ça ne sera jamais égal à 3. Maintenant, si je dis 1 million plus 1 million, ça fait combien?
2 millions.
D'accord. Et toi, ouais. Maintenant, comment tu vas arriver au calcul que 1 million plus 1 million est égal à 2 millions? D'accord. Ah bon, voilà, c'est un axiome de base. On te dit que voilà, il y a des calculs, on fait comme ci, on fait comme ça. Bon, très bien, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Maintenant, il y a des axiomes de base. Mais parfois, même si avec les axiomes de base, sur la base des axiomes de base, quand tu veux développer, tu peux avoir plusieurs façons pour arriver à un résultat. Par exemple, en ce moment, cette semaine, les jeunes, ils sont passés le bac. Ouais. Ok. On leur souhaite d'ailleurs une belle réussite, si tu veux, comme ça, ils auront une belle parnassa dans leur vie, pourront gagner leur vie dignement et encore plus que ça. Là, ils seront à ta chaîne. Maintenant, dans le bac, une des matières principales, surtout dans le bac S, c'est quoi, c'est les maths. C'est quoi les maths? On te présente un problème. Et te donner la solution au problème. Maintenant, tu vas être noté, pas seulement sur le résultat.
La façon dont tu arrives.
Tu vas être noté sur la façon comment tu arrives au résultat.
Ah oui. Bon.
Pourquoi? Parce que parfois, le résultat que tu vas donner, il est bon, mais tu as fait un très loin. Tu es passé par 15 formules, alors qu'il y avait 2 formules, tu aurais pu solutionner le problème. Donc du coup, tu n'auras pas 20. On peut avoir 20 en maths, parce que les maths, c'est une matière, on peut avoir 20, c'est possible. C'est pas de la philo, c'est une notion. On peut avoir 20 en maths, il n'y a pas de problème. Mais le professeur, il ne te note pas que sur le résultat. Parce que c'est vrai, je t'ai demandé une question, je t'ai donné la solution. Ça, c'est la solution. Mais comment tu as fait pour arriver là? Tu m'as fait, tu comprends, pour aller de Paris à Lyon, t'es passé par la mer, t'es passé par le truc, t'es arrivé à Lyon. Oui, mais merci, t'es arrivé à Lyon. T'as repris l'autoroute, t'es arrivé direct. T'as repris la bonne sortie, t'es arrivé direct. De la même façon. Il y a des bases, il y a des axiomes de base dans le service de Dieu. C'est quoi? Ahava, ira. L'amour et la crainte d'Hachem. La base. La crainte de Dieu, comme il va expliquer ici, Shoresh le Sourmera, c'est la crainte de Dieu et la base de toutes les mitzvot négatives. Parce que si je crains Dieu, donc automatiquement, je ne veux pas transgresser les mitzvot négatives. Ve'ahava, leva, c'est tov. Et l'amour, c'est la base de toutes les mitzvot positives. Parce que si j'aime Hachem, je passe à la page suivante, automatiquement, je vais accomplir toutes les mitzvot positives, des oraita ou des rabbanan. Les commandements positifs de la Torah et des sages. Okay, moi, je suis bien mitzvot. Donc, ça veut dire comme ça. Je te dis, personne n'est venu te dire que quand tu éduques ton enfant, tu éduques ton enfant selon sa voix, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de règles. Personne n'a dit ça. C'est faux, c'est une erreur de penser comme ça. Ce qu'on veut te dire, c'est quoi? C'est que, il y a une base. La base, c'est quoi? C'est par exemple, ira à ava, l'amour et la crainte d'Hachem. Mais une fois que tu as cette base, tu dis à ton fils, écoute, on a des mitzvot, on a l'amour d'Hachem, on a la crainte d'Hachem. Maintenant, comment l'enfant va exprimer son amour et sa crainte à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il va exceller dans telle mitzvah? Est-ce qu'il va exceller dans telle mitzvah? Est-ce qu'il préférera étudier la Torah? Est-ce qu'il préférera faire des mitzvot? Est-ce qu'il préférera faire du chesed? Est-ce qu'il préférera donner à tzedaka? Est-ce qu'il préférera aller dans les hôpitaux? Est-ce qu'il préférera faire ci? Est-ce qu'il préférera faire ça? Ça, c'est déjà, dans le cadre des règles qu'on t'a données, l'enfant va décider, voilà ce qui m'intéresse, voilà ce qui m'intéresse moi. Vous me suivez? Je vais aller un peu plus loin. Je vais donner un exemple. Imaginez, par exemple, une maman qui rassemble ses enfants, et qui leur dit, j'ai besoin d'aide. C'est possible? J'ai besoin d'aide. Donc elle va dire aux enfants, voilà. Donc elle va dire, maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle va dire, voilà ce que j'ai besoin comme aide. Donc elle va dire, voilà, j'ai besoin, fasse tes courses. j'ai besoin qu'on m'aide à éplucher, j'ai besoin qu'on m'aide sur la marmite, pour la marmite, j'ai besoin qu'on m'aide au four, j'ai besoin qu'on m'aide pour le service, j'ai besoin qu'on m'aide pour le débarrassage. Elle donne la liste. Et après, chaque enfant, dans le cadre de ce qu'on lui a donné, il va dire, un enfant, qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Benita?
Chacun va choisir.
Alors pourquoi il va choisir? Chacun va choisir par rapport à quoi?
Par rapport
à ce qu'il aime. T'en as un, il va dire, moi, je suis bon dans la déco. Moi, je te fais la table de Shabbat. Moi, je te mets la table de Shabbat, c'est mon truc. La cuisine, c'est pas mon truc, mais la déco, c'est mon truc. Un autre, il va dire, moi, la déco, je supporte pas. Ça me prend la tête. Par contre, tu mets dans la cuisine, la main dans la pâte, ça, je kiffe. Ouais, maintenant, est-ce qu'on va dire qu'il y a un enfant qui a plus préparé la table de Shabbat que l'autre?
Non.
Non. Alpi d'Arco. Mais, le derrière a été dans les règles qu'on a mis dans la maison. C'est-à-dire, la mère, elle a dit, voilà, tac, 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 tac. Maintenant, si maintenant, il y a un enfant qui va dire, moi, j'ai envie de décorer une table de Shabbat, mais je vais le faire mardi soir. J'ai envie de décorer une table pour mardi soir. Hein? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Hein? On va lui dire, ça rentre pas dans les règles.
Ça complique.
Ça veut dire, je veux bien te donner ton autonomie, mais ton autonomie dans les règles qu'on a données à la maison. C'est une question très compliquée, vous savez, c'est une vraie question qu'on a dans l'éducation. Au Hachem, les enfants grandissent chez tout le monde. 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, après on voit des enfants plus grands encore, 15 ans, 20 ans. Et en fait, plus on avance, et plus on a toujours ce dilemme, jusqu'où on doit leur donner l'autonomie. Parce que d'un côté, si, on sent que si on les bride trop, on les bloque. On les braque, c'est pas bien. Braquer un enfant, c'est pas bien de braquer un enfant. Mais d'un autre côté, on sent que si on leur donne trop de liberté, c'est pas bon. Donc, comment trouver le bon équilibre entre d'un côté, lui dire, il y a des règles, et d'un autre côté, lui dire, t'as une autonomie. Ça, la Dourazaka nous donne la formule. J'ai dit, ça, c'est la formule. La formule, c'est que tu dois avoir des bases. Il y a un axiome de base. C'est-à-dire, voilà comment ça se passe. On va évoluer dans ça. Maintenant, dans ça, tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça comme ça, comme ça. Mais ça démarre là, ça finit là. On peut pas dépasser ça. Et dans le cas de ce que je te donne, là, tu vas évoluer. Et c'est une éducation réussie. Est-ce que c'est facile? Non, c'est très difficile. Très difficile. Parce que d'être entre les deux, je vais vous dire ce qui se passe en général. Ce qui se passe en général, c'est que soit t'as des parents qui sont trop laxistes, et les enfants font ce qu'ils veulent, et après ils se réveillent, l'enfant il a déjà 25 ans, il est déjà à côté de la plaque, d'accord? Ou soit t'as des parents qui sont trop durs, trop rudes avec leurs enfants, et pareil, les enfants ils écoutent, parce que pour l'instant l'autorité de leur père est sur eux, et le jour où il peut se défaire l'autorité de son père, il lâche tout, et tu comprends pas pourquoi il a pris son appartement. Et d'où il est sorti, on n'a pas compris. Donc le Bras de Ken te dit, c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. C'est quoi le darko, c'est quoi le chemin? Le darko, ça veut dire que tu lui dis, voilà. Il y a l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, c'est les mitzvot. Maintenant, dans quelle mitzvah l'enfant va exceller? Ça, c'est pas toi qui décides. Si un enfant, tu vois par exemple avec le temps que cet enfant, et on voit même dans l'éducation, t'as des parents qui rendent fous leurs enfants pour qu'ils fassent médecine. L'enfant, il veut pas faire médecine. L'enfant, il n'est pas fait pour médecine. Et toute sa vie, il va être en souffrance. Pourquoi? Et tu sais qu'il va vivre en médecine. Tu vas l'envoyer, il va faire un an, il va rater sa première année. Tu vas le pousser à faire une deuxième année. Il va rater sa deuxième année. Il va être en échec. Et après, il se dit, maintenant, on va se relancer dans un nouveau parcours. Et il faut beaucoup de force. C'est-à-dire, après un double échec, de dire, bon, ben, on va réessayer de se reconvertir. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va essayer de se reconvertir. Alors, des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Des fois, le gosse, il a craqué. Il en peut plus. Il fait 2 ans. Donc, la troisième année, il démarre déjà avec un handicap. Et il démarre, et ça se passe mal. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis un raté, je suis un bon rien. Et il va finir par parler vente des portables. Moi, j'ai rien connu. D'accord? Tout ça à cause de quoi?
Des parents qui sont...
J'ai rien contre ceux qui vendent des portables. On peut être un grossiste en portable.
Ouais. Non, mais les parents qui sortaient d'avoir un verre,
c'est-à-dire, quel est le problème? C'est que tu as entêté ton... Hein? Quoi?
Ah, shalom.
Quel est le problème? Le problème, c'est que... Mais pourtant, l'enfant... Mais pourtant, le père, il dit, mais je voulais bien faire. La mère, elle dit, je voulais bien faire. Je lui ai mis les meilleurs profs particuliers. Je l'ai mis dans les meilleures écoles. Tu sais combien j'ai payé l'école pour qu'il y ait le tabac, la prépa?
Tu
sais combien j'ai payé? Et il te sort, j'ai payé 10 000 euros, j'ai payé 15 000 euros, j'ai payé 20 000 euros.
On dit, mais c'est... Il est même pas russe.
Prof particulier, etc. Par dizaines de milliers d'euros. Je te dis, mais t'as pas compris.
Si,
il est pas fait pour ça. Il est pas fait pour ça. Crois de ton tête.
Mais une mère, elle est convaincue qu'il est fait pour ça.
Alors,
non, mais ça marche pas.
Non, mais d'un autre côté, attendez, oui. Le problème, je vais t'expliquer le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que d'un autre côté, les parents, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Quand ils voient qu'il y a un enfant qui est un peu fainéant et qui connaissent les qualités de leurs enfants, ils disent, cet enfant, si je le pousse un peu, On peut faire quelqu'un qui va réussir dans la vie. Pourquoi pas ? Mais où est le juste milieu ? Où est le juste milieu ? Entre d'un côté pousser l'enfant à développer ses capacités et d'un autre côté ne pas pousser l'enfant dans un chemin qui n'est pas le sien. Où est le juste milieu ?
C'est compliqué. Hein.
Des fois l'enfant il te sort des trucs, il te sort des trucs complètement incongruent, tordu, tu vois. Tu dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Il te sort un métier. D'accord, voilà.
Mais en Israël.
Bon, je ne sais pas dedans, on a enregistré, mais.
En Israël, il y a des.
Il te sort un truc. Non, mais il te sort un truc, aucun rapport. Alors la vérité, ils ont eu la bonne idée, c'est vrai. J'ai une bonne idée maintenant. Qu'est-ce qu'ils font à l'école ? À l'école, maintenant, ce qu'ils font, je crois que c'est avant la seconde, je crois.
Ouais.
Ils font les tests, hein, c'est ça ?
Ouais.
Ils font les tests.
Tu sais, ça fait 40 ans déjà, j'étais jeune.
Ouais.
À l'âge de 14, 13 ans, chaque année, il nous a fait des tests.
Pour savoir si ça correspond.
Pourquoi c'est venu ? Pour l'armée.
Ah.
Parce que si tu fais l'armée des choses qui ne te conviennent pas,
ni
l'armée, tu vas être content.
Bien sûr.
Alors ils ont inventé ça.
C'est le pays qui a inventé.
Ils ont inventé psychométrie.
Voilà. Ah. Pour le travail.
Bah oui.
Bien sûr. Donc, c'est quoi Hanoch Lenar Alpi Darko ? Comment tu trouves l'équilibre dans l'éducation de ton enfant ? D'un côté, une éducation dans laquelle tu pousses l'enfant à une autonomie, et d'un autre côté, une éducation avec des règles. C'est compliqué à trouver le bon équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe très souvent ? Je vous explique ce qui se passe. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un des deux parents qui est plus rigoureux que l'autre, et qui met de la pression, et t'as l'autre parent qui va par derrière, qui fait le contraire. Et du coup, qu'est-ce que l'enfant il comprend ? L'enfant il comprend, je vais chez papa, je vais chez maman.
Il va vers le... Merci.
D'accord ? Ça vous dit quelque chose, ça ? Merci.
Oui, là, il part.
Ça vous dit rien, non ?
Il va vers le plus facile.
Alors, te dis l'Admor Hazaken, comment ça marche l'éducation ? C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est dans le cadre des règles que la Torah a données, Ira Ahava, la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem. Comment essayer de trouver un terrain dans lequel l'enfant aura son autonomie ? Et ça, on le voit. Moi, je vais avec mes enfants, je vais avec les deux enfants, etc. On voit clairement qu'il n'y a pas un enfant qui ressemble à l'autre. Il n'y a pas un enfant qui ressemble à l'autre. Chaque enfant a son style, chaque enfant est différent. Il n'y a pas de copier-coller. Et même dans les familles dans lesquelles vous avez l'impression que les enfants se ressemblent beaucoup, ils ne ressemblent pas.
Même les jumeaux.
Ils ne ressemblent pas. Même les jumelles ne se ressemblent pas. Et c'est tant mieux que c'est comme ça. Parce que sinon quel est l'apport qu'un il a par rapport à l'autre ? Ok. Donc voilà ce que dit l'Admor Hazaken. C'est quoi l'éducation ? L'éducation, c'est dans le cadre des règles de la Torah, comment essayer de trouver une autonomie ? On va développer. N'oublions pas qu'on doit arriver à la Emouna avec ça. Ou mitzvah tachinuch, je suis à la page 11, troisième paragraphe. Ou mitzvah tachinuch, il gagne quand même une mitzvah assez. La mitzvah de l'éducation est aussi une mitzvah positive. Que Moshe Katouv, Be'or Achaim, Siman Shin Mem Gimel, comme il est écrit dans le Shulchan Aruch, Or Achaim, section 343. Ça veut dire quoi, hein? Là, le Admor Hazaken explique un point très important. Tu es dans la tête de beaucoup de gens, c'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est apprendre à un enfant ce qu'il ne doit pas faire.
Entre autres.
Ils disent, l'enfant, je laisse développer, et quand il fait une gaffe, je lui mets une tréra pour qu'il comprenne qu'il a fait une gaffe. Là. Ça veut dire que l'éducation, c'est apprendre à un enfant ce qu'il ne faut pas faire. Beaucoup de gens pensent comme ça. Dit l'Admor Hazaken, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que l'éducation est une mitzvah positive. Ça veut dire quoi, positive ? Ça veut dire que dans l'éducation, il y a deux choses. Il y a ce qu'il ne faut pas faire, il y a aussi ce qu'il faut faire. Il y a un aspect négatif et un aspect positif. Vous me suivez ? C'est dans la tête de beaucoup de gens, l'éducation, c'est je dois dire à mon enfant qu'il fait pas ça. Je veux bien, mais tu lui dis de ne pas faire ci. Mais qu'est-ce que tu lui dis de faire pour ça ? Si je vous pose la question, par exemple le Shabbat, comment vous transmettez le Shabbat à votre enfant ? C'est quoi le Shabbat ? Comment j'éduque à mon enfant ce que c'est le Shabbat ?
Il prend un autre exemple.
Voilà, c'est quoi le Shabbat ?
Le final.
Alors, très bien. Si l'enfant, ce qu'il va retenir du Shabbat, c'est quoi ? C'est que le Shabbat, c'est un jour dans lequel on travaille pas, on prend pas le téléphone, on prend pas la PSP, on prend pas, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui les jeunes, etc. On prend pas la télé, on prend pas ça. Donc qu'est-ce qu'il va retenir l'enfant ? Il va retenir que c'est quoi l'éducation ? Qu'est-ce qu'il m'a éduqué papa ? C'est quoi Shabbat ? Shabbat, c'est ne pas faire. C'est-à-dire qu'il y a un truc, tu vois, il y a un livre qui prend la tête, dans ce livre, il y a que des interdits. C'est-à-dire que l'enfant, tu vois, quand il s'imagine ce livre de la Torah, il s'imagine un livre en rouge partout, tu vois. Tu sais, t'imagines un livre, tout est ouvert, interdit. Alors il dit, l'enfant il va dire, mais attendez, mais il est où le livre des trucs permis là? Donnez-moi l'autre livre. Le livre vert, il est où le livre vert? C'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Quand tu éduques un enfant, il y a un aspect de ira, il y a un aspect de crainte, mais il y a un aspect aussi de ahava, d'amour. C'est quoi l'amour? Ça veut dire éduquer son enfant à un aspect positif. Faire les mitzvot. L'entraîner à faire les mitzvot. Et la vérité, c'est que quand on éduque l'enfant, l'aspect de l'amour est très important, peut-être même plus important que l'aspect de la crainte. Entraîner l'enfant à faire une mitzvah, lui donner le goût à faire une mitzvah. On le fait pas vraiment, ça, en général. Genre, on se dit, bon, bah, je le mets à l'école juive, etc. Et dès qu'il fait une gaffe, on dit, ah, t'as fait une bêtise. Mais est-ce que tu lui expliquais l'importance de la mitzvah? La beauté de la mitzvah, l'importance de la mitzvah. C'est ça le chanor. Le chanor, c'est que tu rentres dans le monde de l'enfant, dans son monde à lui, et tu dis, je ne vais pas enlever des mitzvot de la Torah. Il y a des mitzvot qui sont claires, qu'on ne bougera pas. Il y a des limites de là à là. Mais dans le cadre des mitzvot que la Torah t'a donné, pose-toi la question, quelle est la mitzvah qui va parler à ton fils? Et la vérité, c'est une question que je me pose maintenant. Essayez de vous poser la question chacun dans votre tête. Est-ce que tu es capable de répondre maintenant, quelle est la mitzvah qui parlerait le mieux à mon fils?
Ben, chacun a sa mitzvah.
D'accord. Donc, est-ce que vous êtes capable maintenant de me répondre? Voilà la mitzvah qui parlerait à mon fils. Et pour mon autre fils, c'est cette mitzvah qui lui parlerait. Et pour mon autre fils, c'est cette mitzvah qui lui parlerait. Vous voyez que c'est plus complexe, ça. C'est-à-dire que là, on redonne. Est-ce qu'on est capable de répondre à la question?
Ouais. Ça peut être une question de cache-route, ça peut être une question de fila.
Ça veut dire, est-ce que je suis capable de dire, par rapport au caractère de mon enfant, je pense que la mitzvah qui lui plairait, c'est cette mitzvah. Pas qu'il fera pas les autres. Il fera toutes les mitzvahs.
Mais ça serait mieux de le laisser parler, l'enfant.
Mais évidemment. Mais d'un autre côté, il faut le guider. Il faut le guider vers son chemin.
Oui, mais d'abord, il faut qu'il...
Et le guidage n'est pas seulement sur ce qu'il faut pas faire. Non, le guidage, c'est aussi sur ce qu'il faut faire. Je vais donner un exemple. On pourrait donner beaucoup d'exemples. Quand tu prends un arbre, il y a des gens qui pensent qu'un arbre, il pousse tout seul. Un arbre. Quand tu prends un arbre, il y a des gens qui pensent qu'un arbre, ça pousse tout seul. Seulement, quand l'arbre pousse tordu, là, on a besoin de le redresser un petit peu. Tu dis, non, ça c'est faux. Si tu veux un bel arbre qui pousse bien, il faut bien le planter et il faut l'accompagner, l'arbre. Pas seulement lorsqu'il se plante. Pas seulement lorsqu'il se trompe. Pas seulement lorsqu'il part tordu. Même lorsque tu as l'impression qu'il pousse droit, il faut être à côté de lui. Pour voir, est-ce qu'il pousse bien? Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'un peu d'eau? Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'un peu de soleil? Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'un peu de ci? Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'un peu de ça? Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui enlève une branche? Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui enlève ci, qu'on lui enlève ça? Pourquoi? Parce que le chinour, c'est pas seulement enlever les mauvaises choses. Le chinour, c'est aussi pousser la personne vers les bonnes habitudes. On est d'accord? Donc là, déjà, on commence à comprendre un petit peu ce que c'est l'éducation. Un petit peu. Donc, résumons ce qu'on a dit, parce qu'on a dit pas mal de choses. D'abord, ce qu'on a compris, c'est que le but de l'éducation, c'est d'éduquer un enfant selon son chemin. Ah, mais si tu l'éduques selon son chemin, il sera tordu. Tu te dis non. Selon son chemin, dans le cadre des règles que la Torah a données. D'accord? Par exemple, si on est dans la famille Siboni. Dans la famille Siboni, c'est une Ferrari sinon rien. Maintenant, quelle Ferrari? Ça, c'est la question. Serge, je dirais quelle Ferrari?
La Ferrari.
Maintenant, Steven, je dirais quelle Ferrari?
Le problème, c'est la couleur. Quelle couleur?
Très bien. Mais je comprends l'exemple, ce que je veux dire. Ça veut dire que dans le cadre des règles, c'est une plaisanterie, évidemment. Dans le cadre des règles qu'on t'a donné, dans ça, tu vas donner une autonomie à l'enfant, qu'est-ce que tu vas choisir? Ça, c'est règle numéro un dans l'éducation. Règle numéro un dans l'éducation, c'est qu'il y a des règles, mais dans le cadre de ces règles, il faut une certaine flexibilité pour dire dans quoi l'enfant va exceller. Ok? Donc, un enfant, tu veux le pousser, reprenons l'exemple du bac. Un enfant, tu veux le pousser à gagner sa vie. Il y a beaucoup de façons de gagner sa vie. T'as des gens qui vendent des pépites qui gagnent des milliards.
Bien sûr. Qui ont pas de bac, arrivent à la plupart.
D'accord. C'est une erreur. Parce que, monsieur Yazdi, vous croyez que ceux qui gagnent le plus dans la vie, c'est ceux qui ont fait le plus d'études?
Non, c'est faux. Toutes les grandes fortunes de France, c'est l'exemple qui n'ont pas de...
Alors, je vais vous dire quelque chose, monsieur Yazdi. Je vais oser le mot. Bien sûr que ça y contribue, évidemment. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, ceux qui gagnent des sous, c'est ceux qui ont du mazal. Et ceux qui ont du mazal, c'est eux qui vont avoir les sous pour payer les grosses peintures qui vont travailler pour eux. C'est la réalité.
C'est une autre discussion.
Mais attendez, c'est la réalité.
C'est ça.
Vous croyez que ceux qui font des hautes études, ils vont ouvrir leur boîte?
Alors on fait rien.
Non, je vous pose une question. Ils vont être très bien payés.
Non.
Voilà. Ils montent jamais leur boîte. Ils vont travailler pour quelqu'un. Ils vont être très bien payés. C'est pas mal d'être bien payé.
Ce sont toujours des bons seconds.
Mais ils vont travailler pour quelqu'un. Toujours.
Ils sont toujours seconds. Et dès qu'ils veulent monter leur boîte, ils se cassent la gueule. C'est faux. Ils ne savent pas le faire.
C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Les gens parlent.
On va généraliser. Non,
c'est pas vrai.
Pardon.
On a vu autour de soi des gens qui ont, notamment ceux qui ont fait la gestion des entreprises, l'organisation.
Bien sûr. Évidemment.
Bon. Ils sont plus appropriés.
Je ne dis pas ce que je veux dire par là. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas pousser son enfant à prendre un métier. La Gemara a dit, celui qui n'apprend pas un métier à son fils, c'est comme si qu'il lui apprend à voler.
Ah bon?
Oui.
Mais oui, parce qu'il n'a pas de quoi vivre.
Parce que c'est normal. L'enfant, il va grandir. Il faut bien qu'il se nourrisse. Maintenant, voler, c'est un terme. Voler, c'est un terme large. Voler, ça peut être voler. Ça peut être voler une banque. Ça peut être traîner dans la rue et. Je sais pas moi qui on peut voler.
Voler son voisin,
voler au supermarché, voler les acédiques, voler, ça fait voler tout le monde.
Bien sûr.
Tu t'apprends pas un métier à ton enfant, tu l'apprends à voler.
Oui, mais c'est compliqué.
D'accord. On doit avoir un métier, c'est important. C'est maintenant, quand on dit un métier, deux secondes, et là j'arrive à la question. Quand tu dis apprendre un métier, quel métier? Et là, t'as celui qui dit non, mais moi je veux qu'il fasse médecine. Ça, c'est une autre chose. Toi, tu veux que ton enfant ait un métier cachère. Un métier cachère qui lui permet de gagner sa vie dignement, et même largement, et même très largement. Tant mieux, très bien. Amen, bien sûr, c'est le but. Mais d'un autre côté, c'est pas toi qui décides quel métier correspondra le mieux à l'enfant. Alors tu vas aider ton enfant, ça c'est vrai, par rapport à ses capacités. Mais si maintenant t'as un enfant qui est doué pour l'art, par exemple, et tu le mets dans un bac S pour devenir médecin, il est doué pour l'art, il est pas fait pour ça. Tu vois, il a la tête dans les étoiles. C'est là-bas, il est pas fait pour ça. Laisse-le tranquille. Laisse-le développer ce qu'il sait faire. Parce que de toutes les façons, ça ne marchera pas. De deux choses l'une, ou ça ne marchera pas, ou tu feras un médecin malheureux.
Ouais.
C'est ce que tu veux.
C'est vrai.
Donc le maître d'œuvre, c'est l'enfant lui-même.
Donc le maître d'œuvre, c'est l'enfant lui-même, et le papa et la maman qui doivent essayer, dans le cadre du caractère de leur enfant et de ce qui est bien pour lui, mais de ce qui est dans les règles de la Torah. C'est-à-dire, si l'enfant, par exemple, il est kleptomane, on va pas l'éduquer à voler. On est d'accord? Non mais on va pas l'éduquer à voler. On va l'éduquer dans le cas de ce qu'il sait faire. Non mais voilà. Par exemple, un kleptomane, tu vas en faire un chasseur de tête. Par exemple. C'est-à-dire, tu vas utiliser cette tendance qu'il a pour dire.
Capacité pour voir.
Capacité, c'est que c'est un chasseur de tête.
Oh, bien sûr,
c'est un qui gagne des millions.
Ah mais des milliards, mais il y a des gros doigts qui cherchent un PDG.
C'est-à-dire, si tu trouves la bonne personne au bon moment, au bon endroit, on te donne les coms que tu veux. Il n'y a pas de problème. Bon. Donc, plusieurs principes dans l'éducation. Deux principes pour aujourd'hui, premièrement. Premièrement, on a expliqué c'est quoi l'éducation. L'éducation, c'est éduquer l'enfant selon sa voie, mais dans le cadre des règles de la Torah. Mais selon sa voie. Premièrement. Donc, avec l'équilibre qu'on a donné. Deuxièmement, dans une éducation, il y a deux choses. Il y a de l'amour et de la crainte. Ou plutôt de la crainte et de l'amour. La crainte et de l'amour. La crainte, c'est pour le pousser à ne pas mal pousser, d'accord? Donc, pour le diriger. Et l'amour, c'est pour le pousser justement à cet enfant, à le pousser dans le droit chemin, à faire les mitzvot, mais toujours avec la simra. Voilà. Et on a vu dans l'histoire que quand on n'éduque pas les enfants comme ça, malheureusement, ça tourne mal. Mais c'est très difficile, parce que c'est très difficile de marier les deux, de marier la crainte et l'amour. En général, il y a toujours une dominante. Il y a des enfants que la dominante dans notre relation avec eux sera la crainte. C'est-à-dire, fais pas ci, fais pas ça. Et il y a des enfants que la dominante dans la relation qu'on a avec eux sera l'amour. Et la Torah te dit, l'un comme l'autre est faux. Il faut toujours trouver l'équilibre entre les deux. C'est très difficile. Mais c'est ça, chinour. Ça, c'est le chinour. Et c'est une mitzvah positive. Bon. Maintenant, si vous voulez, il faut qu'on applique ça par rapport à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on n'est pas venu pour faire un cours d'éducation aujourd'hui. Aujourd'hui, on est venu pour faire un cours par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc la vraie question qu'on va se poser, c'est on va essayer de nous éduquer nous-mêmes par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et on va retrouver les deux mêmes principes. Premier principe, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi?
Que je fasse des mitzvot, que je me tienne droit, que je marche droit.
Oui, mais c'est trop bas ça.
Que je marche droit, je fasse des mitzvot.
Alors, t'as des gens qui vont te dire, Dieu attend de moi que je sois rabbin. T'as des gens qui vont te dire, Dieu attend de moi que je donne à Tzedaka. T'as des gens qui vont te dire, Dieu attend de moi que je rends visite aux malades. tu as des gens qui vont te dire, Dieu attend de moi que je nourrisse ma famille.
Mais c'est tout ça à la forme.
Alors justement, voilà ce que je veux dire. En vérité, toutes les réponses sont bonnes. Et quand je m'éduque, je dois me poser la question, par rapport aux capacités qu'Hachem m'a données, qu'est-ce qui me correspond plus? Je vais illustrer ça avec deux exemples. Deux exemples. Deux histoires. Première histoire. C'est le Rav Slavatitsky, que je connais personnellement, le chaliar du Rabbi à Anvers, qui raconte une fois lorsqu'il était à la yeshiva, il y avait un... C'était une yeshiva qui était pas de la mouvance Rabad, etc. Vous comprendrez plus tard pourquoi je précise ça. Et donc, il était à la yeshiva, et il avait son roommate, comment on dit roommate en français? Il avait son colocataire, hein? Son colocataire. D'accord, enfin, celui qui était dans la même chambre, le bachour qui était dans la même chambre que lui, il sentait qu'il était pas bien. Alors, il essayait de lui parler, il dit, non, c'est rien, etc. Et bon, lui, il est très fort pour faire sortir les vers du nez, mais pour le bien. Et donc, il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui te dérange? Je vois que ça fait quelques semaines, que t'es pas bien, t'es très très pensif, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, t'inquiète pas, peut-être que je peux t'aider. Il finit par lâcher le morceau. Il lui dit, écoute, je t'explique, c'est très simple. Il dit, voilà, j'ai bientôt 16 ans, maintenant, et je me rends compte que je suis pas fait pour étudier la Torah toute la journée. Ouais, je vois clairement que je suis pas fait pour ça, j'arrive pas. C'est-à-dire, 16 ans, c'est quand même un âge où tu vois quand même... Et ça me fait beaucoup de peine. Parce que les rabbanim à la yeshiva, ils n'arrêtent pas de nous parler de l'importance de l'ernen. C'est ce que c'est l'ernen. Étudier. Et ils nous parlent de l'importance qu'il faut essayer de tout faire pour essayer d'être dans la Torah toute la journée, de devenir chez Shiva, etc. Et je sais que je ne veux pas devenir comme ça. Donc ça me fait de la peine. Parce que ça me fait de la peine de commencer ma vie avec un handicap. Comme ça. C'est une angoisse saine d'un élève de yeshiva. Alors le Rav Slavatitsky, qui était jeune homme, le sait à ce moment-là, il raconte qu'il a posé la question à ce jeune homme. Il lui a dit, mais est-ce que tu as posé la question, est-ce que tu en as parlé au Rosh Yeshiva, au Rav? Il dit, oui, j'en ai parlé. Mais sa réponse m'a angoissé encore plus. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, quand je lui ai parlé, je lui dis que je ne me voyais pas étudier toute la journée, il m'a dit, écoute, essaye, de toute façon, pire, c'est pas grave. Même si tu pourras pas, tu seras dans les affaires, et tu pourras financer des gens qui étudieront toute la journée. Et j'ai un peu l'impression que c'est plan B. C'est-à-dire, plan A, c'est être dans la Torah toute la journée. Et si t'as un plan B, t'es un raté, t'arrives pas à étudier la Torah toute la journée, bon, alors va dans les affaires et tu financeras les chivas. Il dit, mais moi, j'ai pas envie d'être plan B. C'est une question légitime d'un jeune homme. D'accord, d'un ado. Il dit, j'ai pas envie de commencer ma vie comme ça. Donc il a un vrai questionnement. Il se dit, finalement, quel est mon objectif dans la vie? On me dit que mon objectif, c'est de devenir Rosh Yeshiva. Je sais que je ne deviendrai pas Rosh Yeshiva. Parce que c'est pas moi. J'arrive pas. On me dit, si t'arrives pas, alors bon, tu vas être dans les affaires et tu vas financer les yeshivotes. Mais c'est plan B. Je veux pas être plan B, moi. Je démarre ma vie maintenant. J'ai pas 50 ans. Je démarre ma vie. Je vais bien la démarrer. Alors, Slavatitsky raconte que, bon, lui, il était déjà assez proche du mouvement Chabad. Après, il est parti à l'Yeshiva Chabad, il était assez proche du mouvement Chabad. Il lui dit, écoute, écris au Rabbi. Il dit, quoi, écris au Rabbi? Je suis un jeune homme de 16 ans, je vais écrire au Rabbi. Il dit, bien sûr, tout le monde écrit au Rabbi, même des enfants écrivent au Rabbi. Écris au Rabbi. Écris ton dilemme. Il a fait une longue lettre. Ta, 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 ta. Voilà ma famille. Voilà mon parcours. Voilà mon entourage. Voilà ma Yeshiva. Voilà ci, voilà ça. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce que je pense, etc. Il a fait tout un parcours. Fait une lettre. Quelques jours plus tard, il reçoit une réponse du rabbi. Une ligne. À l'époque, la réponse n'était pas manuscrite, était déjà à l'oral. Le rabbi lui répond par une Mishnah. La Mishnah, elle dit la chose suivante, elle dit « Ani lo nivreti ela leshamesh et koni. » Je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Voilà. Le rabbi lui répondit avec une phrase. Quelle est la réponse du rabbi? Qu'est-ce qu'il a répondu à ce jeune homme?
Finalement, il est resté sur sa faim, ce monsieur.
Attendez, seconde.
C'est un mal de tête. Oui.
Seconde. Qu'est-ce qu'il lui répond? Le jeune homme, il te dit, je suis perdu. Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui dis, j'ai été écrit que pour servir mon créateur. C'est quoi la réponse? Je vais vous expliquer la réponse. La réponse est la suivante. La Mishnah n'a pas dit, j'ai été créé pour être à la yeshiva toute la journée. La Mishnah n'a pas dit, j'ai été créé pour aller travailler toute la journée et donner la tzedaka. La Mishnah n'a pas dit, j'ai été créé pour aller travailler et j'ai été créé pour faire des mitzvot. C'est pas ce qu'a dit la Mishnah. La Mishnah a dit une phrase. J'ai été créé pour servir mon créateur. Alors c'est quoi le service du créateur?
C'est plusieurs choses à la fois.
Voilà.
La
définition. Donc, toi, tu t'imagines, cher élève de Yeshiva, tu t'imagines que être Rosh Yeshiva, c'est plan A, et être celui qui donne la tzedaka, c'est plan B. Moi, je te dis, c'est faux. Pour celui qui est conçu pour être Rosh Yeshiva, pour lui, être Rosh Yeshiva, c'est plan A, et être dans les affaires, c'est plan B. Mais pour toi qui es conçu pour être dans les affaires, être dans les affaires, c'est plan A, être Rosh Yeshiva, c'est plan B. Ani, lo, nivreti, et là, les shamash et koni. Je n'étais créé que pour servir mon créateur. Encore une fois, on retrouve le même concept. La même façon qu'on on demande ça de nos enfants, de nous-mêmes aussi. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pas qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Par rapport aux capacités qu'il t'a données, qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Quelle est ma fonction sur terre? Et ne pas être ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidout, une neshama perdue. Une neshama perdue. C'est quoi une neshama perdue? Je vais raconter une histoire. Bon, aujourd'hui, je vais inspirer dans les histoires aujourd'hui. Pour illustrer, c'est quoi une neshama perdue? Une fois le rabbi dans un Fabringen, c'est une parenthèse, c'est pas encore l'histoire. Une fois le rabbi dans un Fabringen, il a dit, on voit que quand on fait des collectes, parce que le rabbi, des fois, dans un Fabringen, il faisait des collectes. Il y avait des causes urgentes qui arrivaient, et le rabbi dans un Fabringen, il faisait une collecte. Et des fois, c'est des collectes dans lesquelles chacun annonçait ce qu'il voulait. Et des fois, c'est des collectes dans lesquelles le rabbi lui-même, il annonçait à chacun ce qu'il donnait.
Voilà.
Et quand un acte, il dit, augmente fois 4, fois 10. Il y en a une fois, il lui a dit fois 100. Et chaque fois, si la personne suivait le rabbi, il avait des rechotes extraordinaires, il avait de quoi payer. Bon. Mais qui te sourd? Une fois le rabbi, une fois.
Tu vas donner 2 milliards.
Une fois le rabbi dans un Farmagan, il a dit comme ça. Il a dit, quand je te fais des collectes, les gens qui doivent donner, ils me disent, on va étudier la Torah encore plus. Et les gens qui n'ont pas de quoi et qui doivent étudier la Torah, tu les vois, ils sont là en train de sortir 10 dollars et 15 dollars et 50 dollars. Mais le rabbi dit, c'est des chamottes perdues, ça. Parce que celui qui doit donner, il donne pas. Il me dit, je vais étudier la Torah deux heures de plus par jour. Et celui qui devait étudier la Torah, il me dit, non, je vais aller travailler pour gagner. C'est une chama perdue. Chacun doit être dans sa zone. Alors, je voulais vous raconter une histoire pour illustrer c'est quoi les chamas perdus. Je vous raconte qu'une partie de l'histoire parce que l'histoire est très longue. Une fois, il y a un cocher très riche. Non, pardon, le cocher n'est pas riche, le cocher est pauvre. Il y a un homme d'affaires très riche. Voilà. Un homme d'affaires très riche qui a son cocher personnel. Et donc, ils font un parcours. Et normalement, en général, ils planifient leur parcours de façon à ce qu'on part dimanche et on revient vendredi à la ville pour passer Shabbat à la maison. Bon, il y a eu un imprévu, des intempéries, etc. Du coup, ils se retrouvent vendredi à comprendre qu'ils ne seront pas chez eux. Donc, ils s'arrêtent dans une auberge. Ils s'arrêtent dans une auberge et chacun prend une chambre. Le riche, il prend la suite. Une grande suite. Et le cocher, il prend une petite chambre. Chacun va faire ses courses pour faire son Shabbat. Bon, chacun va faire son Shabbat dans sa chambre, c'est comme ça. Maintenant, ils ont du temps parce qu'ils sont arrivés bien avant Shabbat. Et il n'y a pas les préparatifs du Shabbat parce que bon, ils ont commandé, enfin, ils ont trouvé, etc. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait un juif lorsqu'il est esclave du temps quelques heures avant Shabbat? Il va à la synagogue. À l'époque, il n'y a pas les problèmes vigipirates comme aujourd'hui. À l'époque, la synagogue est ouverte toute la journée. C'est comme ça qu'il doit être normalement. La synagogue est ouverte tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la synagogue, séparément. Donc le cocher, il avance, il va à la synagogue, met les habits qu'il a, des beaux habits de Shabbat, bon, classique, mais habits de Shabbat. Et il arrive tranquillement, 2-3 heures avant Shabbat, à la synagogue, il s'installe, il ouvre son chumash, il commence à lire, il fait un grand kiff. Quelques minutes plus tard, il y a le riche qui sort de sa suite, et lui aussi, il va se diriger vers la synagogue. Et quand il est en chemin, on l'appelle, qui l'appelle? Il y a un monsieur qui avait son cheval qui est en train de s'enfoncer dans les sables mouvants. Il y avait un sable mouvant quelque part et le cheval est en train de s'enfoncer. Il dit au secours, aidez-moi, c'est tout un parnassa, c'est mon cheval, c'est mon outil de travail, il va mourir, etc. Aidez-moi. Il y a une mitzvah de la Torah qui dit que lorsque tu vois ton ami en train de souffrir, tu vois l'animal, même ton ennemi en train de souffrir, tu dois l'aider. Donc le riche, il est là avec ses beaux vêtements de Shabbat, puis il a vraiment des beaux vêtements. Mais il y a une mitzvah, donc il est religieux. Il essaie d'aider. Et il est là, il tire, etc. Mais il n'est pas du métier. Donc du coup, il n'a pas aidé. Et l'animal finit par sombrer, il part. Donc lui, il arrive, après une heure, en sueur, etc. Il rentre dans la chambre, il essaie de se changer comme il peut. Mais il n'a plus de vêtements de Shabbat. Il plus. Donc il met des vêtements classiques, et il est partout, il est meurtri, etc. Enfin, il s'est battu avec de la boue pendant une heure. Il n'a jamais fait ça. Il était tellement douillé qu'il meurtrit partout, etc. Il arrive à la synagogue. Lui, il avait prévu, quand il arrive à la synagogue, qu'à l'issue de la prière, d'inviter. Il avait prévu, à l'issue de la prière, d'inviter. D'inviter. Il faut pas s'endormir, c'est une histoire, il faut pas s'endormir. Il avait prévu d'inviter tout le monde. Il avait prévu pour 10 personnes à la table. Le problème, c'est que quand il arrive, quand il arrive après la prière, il dit aux gens, vous voulez venir chez moi, les gens, ils le voient comme ça, meurtri comme un clochard.
Il
paye pas de mine. Donc les gens, ils disent non. De l'autre côté, dans un autre coin de la synagogue, il est coché.
Bien habillé.
Et le coché, il est bien habillé. Il est habillé correctement. Et lui, il dit aux gens, il dit, bon, venez chez moi. Et les gens, ils disent, ok, viens chez toi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as le cocher qui rentre dans sa chambre avec 10 personnes. Bon, alors ils partagent ce qu'ils ont. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils partagent ce qu'ils ont. Ils font un repas très sympathique, mais il n'y a pas beaucoup à manger. Et de l'autre côté, le riche qui est meurtri, qui est tout seul, qui pleure, il a un repas pour 20 personnes et il se retrouve à être tout seul à manger. Maintenant, après 120 ans, les deux Neshamot arrivent au ciel. Et là, dans le ciel, on ne sait pas quoi faire. Alors, on dit d'un côté, le riche, il voulait aider le monsieur. Il voulait aider il a fait une mitzvah, mais ça n'a pas marché. Le cheval, il est mort. D'un autre côté, le cocher, lui aussi, il voulait inviter, il a fait une mitzvah d'inviter. Mais qu'est-ce qu'il leur a donné à manger?
Très peu.
Et là, dans le ciel, on est embêté, on ne sait pas quoi faire parce qu'il y avait des bonnes intentions des deux côtés. Mais dans la réalité, ça n'a pas marché. Le résultat n'était pas là. Alors, on a fait un din Torah dans le ciel, et Akadosh Baruch Hu a décidé que ces neshamot étaient neshamot à Torot. Des neshamot perdus. C'est quoi une neshamot perdue? Ça veut dire que chacune avait fait le travail de l'autre. Et c'était pas bon. Le cocher, son travail, c'était de quoi? D'aller sortir le cheval. Et lui, comme il était du métier, en deux temps, trois mouvements, il l'aurait fait sortir.
Bien sûr. Sûrement.
D'accord? Certainement, il est du métier. Oui. Et le riche, c'était quoi sa fonction? C'est d'inviter les gens à table. C'est ça sa fonction. Mais concrètement, les circonstances ont fait, c'est HM, mais les circonstances ont fait que les Neshamot sont perdus. Les Neshamot sont perdus. Alors qu'est-ce qu'on a décidé dans le ciel? Parce qu'après on a retrouvé plusieurs cas dans leur vie où pareil, c'est le même problème, que chacun faisait le travail de l'autre. Qu'est-ce qu'on a décidé dans le ciel? On a décidé de les refaire descendre sur Terre. Et de les refaire passer par la même situation et de voir est-ce qu'ils vont encore se planter. Bon, il y a une suite, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que la suite est encore une histoire. Toute une histoire avec le Baal Shem Tov, etc. Neshamot à Torot. Les Neshamot étaient perdus. Après, ils devront redescendre. Et là, à un moment, ils allaient se planter encore une fois. Et là, c'est le Baal Shem Tov qui est venu à la rescousse et qui a dit, attendez, sachez que vous êtes redescendu sur Terre. Et vous êtes descendu pour un problème qu'il y avait avant dans l'incarnation précédente. Donc ne refaites pas la même gaffe. Toute une histoire, comment il leur a expliqué à chacun, deux personnes qui ne se connaissaient pas spécialement, il leur a expliqué, toi tu dois faire ça, et pas le contraire. Parce que vous devez faire le tikkun d'un gilgul précédent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une notion de Neshamot à Torot, je ne dois pas faire le travail de l'autre. Rabbi Yudushat Anipoli disait, lorsque je vais arriver après 120 ans en haut, on ne me posera pas la question, est-ce que tu étais Avraham Avinu? On posera la question, est-ce que tu étais Zusha? Zusha, c'est son prénom. Est-ce que tu es Zusha Anipoli? Quand tu arrives après 120 ans, on ne te posera pas la question, est-ce que tu étais le Rabbi de Lubavitch? On te posera la question, est-ce que tu étais Serge de l'avenue de Choisy?
Sans ma bagnole.
Moi-même, sans ma bagnole. Tu comprends? Serge, avec ce que c'est Serge. Avec ses qualités, avec ses défauts, t'as que des qualités.
Il n'a même pas besoin de décliner son identité, on le sait là-haut. Qui
non, mais la question qu'on va te poser en haut, c'est pas est-ce que t'étais Moshe Rabbeinu.
Oui.
C'est est-ce que Serge Siboni était Serge Siboni.
Tu as fait ce qu'il a fait.
Exactement. Et c'est ça qu'on te dit ici. De la même façon que quand tu dis que ton enfant, on a rappelé deux principes. Premier principe, c'est que ne le pousse pas dans un chemin qui n'est pas le sien, ça ne marchera pas. De la même façon. Dans la relation que tu as avec Kadosh Baruch Hu, ne te pousse pas dans un chemin qui n'est pas le tien. Ne te dis pas, j'aimerais tellement devenir Rosh Yeshiva. Si tu n'es pas fait pour Rosh Yeshiva, tu ne seras pas Rosh Yeshiva. Et même si tu vas te forcer à le devenir, pourquoi tu veux te forcer à devenir un mauvais Rosh Yeshiva? Alors que, dans une mission qui correspond à ta fonction, à tes capacités, à tes aptitudes, tu serais beaucoup mieux. Hachem ne rate pas son coup. Hachem, il ne fait pas de rater Hachem. C'est le chidouche de l'histoire tout à l'heure qu'on a raconté. C'est pas qu'Hachem, il y a des gens qui l'a gâté, des gens qui l'a pas gâté. Ça marche pas comme ça. Il y a des gens qu'Hachem, il a gâté comme ça, et des gens qu'Hachem, il a gâté comme ça. Maintenant, toi, dans ta façon, dans ton système, tu dis, celui qui est gâté, c'est celui qui fera médecine. Mais ça, c'est une erreur de penser comme ça. Parce qu'Hachem, il a gâté chacun par rapport à ce qu'il a besoin d'avoir. Chacun. C'est-à-dire, si une personne dans sa vie leur a besoin de diriger, on lui a donné des capacités de direction. Si une personne dans sa vie leur a besoin d'aider, on lui a donné des capacités pour aider. Chacun par rapport à ses capacités. Première chose. Alors, deuxième chose, deuxième principe que l'on a vu dans l'éducation, c'est que dans l'éducation, on a expliqué ira ahava, la crainte et l'amour. La même façon dans la relation que tu as avec Kadosh Baruch Hu. Attention de ne pas avoir un judaïsme qui est basé que sur l'amour ou que sur la crainte. L'un comme l'autre est problématique. Tu as des gens qui ont un judaïsme qui est basé que sur la crainte. Judaïsme austère, comme ça, austère, angoissant. Ils sont tout le temps en train d'avoir peur, la peur de Dieu, la peur. Peur, j'ai pas de nom. D'accord ? C'est-à-dire que toute leur relation qu'ils ont avec Hachem, c'est une relation de peur. De peur. Ils transmettent ça à leurs enfants aussi.
Et beaucoup de gens, je vois, cette
relation de peur. Ils ont peur que le ciel va leur tomber sur la tête. Et le peur, et c'est interdit. Et la peur. Et de peur que, j'ai peur que. Évidemment, c'est pas bien. D'un autre côté, t'as des gens aussi qui ne supportent pas la peur. Et que la seule relation qu'ils ont avec HM, c'est une relation d'amour. Dis-moi, tranquille. D'accord ? Tranquille, moi je sers Dieu, dans le cœur, pas de problème. Tranquille, cool Raoul, tout va bien. D'accord. Prends pas la tête. Tu lui dis, mais tu sais, il y a une mitzvah, ça, il faut faire comme ça, Prends pas la tête. Laisse tomber, on le connaît, je le connais Dieu. Ah, va. Quel est le problème? L'un comme l'autre est problématique. Celui qui a que ira, celui qui a que la crainte, ça marche pas. Celui qui a que Ava, ça marche pas. Parce que dans l'éducation de ton enfant et dans l'éducation personnelle, il faut ira et ava, l'amour et la crainte. S'il manque un des deux, ça ne marche pas. Donc là, on commence à comprendre d'où il veut nous amener. Parce que là, tout ça, c'est pour nous amener au chemin Israël. Pour expliquer c'est quoi le chemin Israël. Est-ce que le chemin Israël, c'est une déclaration d'amour à Hachem? Ou est-ce que le chemin Israël est une déclaration d'acceptation du joug d'Hachem?
C'est les deux à la fois.
Eh oui, mais c'est pas la même chose. C'est comme, vous êtes en face de moi, M. Benita. C'est comme, par exemple, on, par rapport à madame. C'est plutôt.
Encore.
Ah, encore. Ah, mais tout le monde, on est tous les.
Je peux étendre.
Ah oui. Est-ce que c'est déclaration d'amour ou est-ce que. Les chocottes, on tremble.
Ah, mais ça dépend des périodes. Hein.
Ah.
Oui, comme partout. C'est pas une exception. Il faut les deux.
Il faut les deux. Toujours. Mais il faut les deux en même temps.
Soit bien dosé.
Ah, tu peux pas les mettre en même temps.
Mais
non,
si.
Non, tu peux pas les mettre en même temps.
Pourquoi Hachem nous a donné des mitzvot positives et des mitzvot négatives? C'est pour t'enseigner que dans la relation que tu as avec lui, il faut ira et ava. De la même façon que dans l'éducation que tu as avec ton enfant. D'accord? Et de la façon générale, tu as le bâton et la carotte, pas le bâton physique évidemment. Le bâton et la carotte, il faut les deux en même temps. Il faut d'un côté l'amour, d'un côté la crainte. De la même façon que dans la relation que toi tu as avec Hachem. Comment tu t'éduques? Tu as un côté de chesed, un côté de ahava, un côté d'amour, et un côté de ira, un côté de crainte. Il faut les deux. Maintenant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je dois partir. Mais la vérité, c'est que dans le prochain cours, peut-être on prendra peut-être 2-3 cours, parce que c'est un sujet très important. Il va expliquer que quand on parle de l'amour d'Hachem, il y a amour et amour. Il y a un amour passionné, tout le monde flamme. Il y a un amour, je t'aime.
Raisonner.
Ah ouais. Maintenant, de la même façon dans la crainte. Il y a une crainte.
Abusive.
Non, pas même abusive. Il y a une crainte.
Exagérée.
Une crainte, la personne tremble.
J'en connais comme ça, dit.
Il y a une crainte.
Voilà. Sur l'enfer, tu viens un peu. C'est bon.
D'accord.
Tu bouges une oreille.
Une crainte extraordinaire. La personne qui pense que tout le temps le ciel va tomber sur la tête. Ce qui est bien. Vous savez, les tzadikim, ils tremblent devant Hachem. Tremblent physiquement. Il y a une crainte classique. Alors là, si vous voulez, le problème, c'est ça va être le thème de la semaine prochaine, dans l'éducation aussi, c'est comment gérer les excès. Est-ce que les excès sont bons ou sont pas bons?
C'est jamais bon un excès.
Et c'est pas si simple que ça.
En général, c'est jamais
oui, mais
bon. C'est comme les extrémistes. Hein,
vous avez raison, mais d'un autre côté, quand je vous parle d'excès, est-ce que aimer Hachem par excès d'amour, est-ce que c'est un problème?
Oui, parce que...
On va voir.
Ben oui, parce que si je l'aime avec trop d'excès, je n'ai plus l'amour pour ceux qui m'entourent.
Bon.
J'en ai pas assez pour ceux
très
qui
vrai.
M'entourent.
C'est vrai, à méditer. Je vous laisse pour l'instant. C'est un bon point ce que vous dites. À méditer. On continue la semaine prochaine.
Ben voilà. Ton père est là. Moi, la semaine prochaine, je ne serai pas là.
On est 10, enfin...
Quoi
hein?
On n'est pas 10 là.
Si, la 9 là.
Pardon. Il y a personne, il est parti mon père. Voilà.
Mais c'est ça le problème.
Bon, messieurs, à méditer.
Oui.
Pas là la semaine prochaine.